Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Actualité chargée, actualité lourde ce soir. Il y a ce féminicide à Mérignac et toutes les questions qui se posent sur les failles qui ont permis à un homme récidiviste de brûler vive sa femme. On en parlera à 18h15 avec la ministre déléguée à l'égalité homme-femme, Elisabeth Moreno. Et puis il y a ce policier de 36 ans, Éric Masson, ce papa de deux jeunes enfants tué de deux balles hier soir à Avignon. À 18h30, c'est le DGP, le directeur général de la police nationale, autrement dit le patron de la police, Frédéric Vaux, qui sera avec nous. Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce jeudi 6 mai.
Et Emmanuel Macron ouvre à tous la vaccination dès la semaine prochaine. Attention tout de même, ce sera sous condition, mode d'emploi dans un instant. Dans ce journal également, ce témoignage troublant au procès de Nordal Lelandais, celui d'un de ses anciens co-détenus. Et puis du foot, et les supporters lensois sont déjà chaud bouillants à la veille du derby contre Lille. C'était à l'entraînement à 24h du match.
Ce qu'il disait l'autre fois, non? C'est le... La météo, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Demain, ça va s'améliorer un peu et ça ne sera pas un mal.
Non, exactement. Alors, en tout cas, sur le nord, c'est vrai, la moitié nord, on va retrouver des éclaircies. Dans le sud, ce sera encore bien chargé.
Vous savez que c'était catastrophique aujourd'hui, quand même, sur Paris, la région parisienne.
Et on est bien d'accord. Mais c'est pour ça que je dis que voilà, on va vers l'amélioration. Et entre l'Aquitaine et les frontières de l'Est, ce sera encore bien gris demain avec des pluies, mais beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Encore de la neige à moyenne altitude sur les massifs de l'Est le matin. Donc attention au risque d'avalanche. Et puis les pluies seront encore plus rares dans l'après-midi dans la partie sud. On pourrait même avoir quelques éclaircies, surtout entre PACA et Corse, tout ça sous des températures en légère hausse l'après-midi, de 13 à 17 au nord et jusqu'à 26 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et pour commencer, donc, direction Bordeaux et l'homme qui a tué avant-hier son épouse en pleine rue à Mérignac dans des circonstances effroyables. Et ce soir, dans le bureau du juge, il devrait être mis en examen et écroué. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure la procureure de la République, Philippe de Maria. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez assisté à cette conférence de presse, la procureure qui a livré un récit glaçant de ce drame.
Exactement. Frédéric Portery, la procureure de Bordeaux, confirme tout d'abord la mort dans de terribles souffrances de Chaynaise.
Les premières conclusions des médecins légistes évoquent un décès suite à une détresse respiratoire aiguë, secondaire à une combustion vitale. En l'état, on peut donc penser que l'auteur a tiré sur la victime et que cette dernière était donc encore en vie au moment où il l'immolait.
Devant les enquêteurs de la Sûreté de Bordeaux, Mounir B raconte qu'il est resté 11 heures en planque en attendant sa victime. Il va tenter de justifier son geste.
Convaincu, selon ses dires, que son épouse avait un amant et qu'elle le manipulait, il aurait décidé de la punir des souffrances endurées, selon ses propos, mais sans souhaiter la tuer. Il stationnait vers 7h15 du matin sa fourgonnette avenue Carnot et voulait, je cite, brûler un peu sa femme pour lui laisser des marques.
Et une information judiciaire va donc être ouverte, notamment pour homicide volontaire par conjoint.
Et Philippe de Maria en direct de Bordeaux pour RTL. Concernant à présent le suivi de cet homme, les ministères de l'Intérieur et de la Justice ont demandé une enquête à leur service. Les premiers résultats sont attendus pour le 11 mai, mais dès cet après-midi, la procureure a donné un certain nombre d'éléments qui interpellent Alice Moreno.
Absolument, les inspections devront éclaircir un point en particulier. Chaynaise a déposé une plainte contre Mounir B le 15 mars dernier pour des violences. Cette plainte suffisait à faire sauter son sursis probatoire. S'il avait été retrouvé, il serait retourné immédiatement en prison. Il était donc inscrit au fichier des personnes recherchées. La procureure de la République de Bordeaux a dit cet après-midi encore qu'il était introuvable pour les services de police. Pourtant, Mounir B était suivi régulièrement, convoqué depuis sa levée d'écrou il y a 5 mois par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il a répondu à 2 convocations fin mars et mi-avril, des rendez-vous qui interviennent donc après le dépôt de plainte de Chaynaise. En résumé, il était introuvable pour la police d'une part et sous la main des services pénitentiaires d'autre part. La question de l'échange d'informations entre les services est centrale, entre la police, le conseiller d'insertion et de probation et le juge d'application des peines.
Alice Moreno. Moreno du service police-justice de RTL. Il est 18h04 à Avignon cette fois. Toujours aucune trace de l'homme qui a abattu hier un policier. Les recherches, bien sûr, sont toujours en cours.
Et sur place, la colère est immense. Ce soir, Marie habite le quartier et avec d'autres. Cela fait des années qu'elle s'inquiète, des années qu'elle tire la sonnette d'alarme.
Hier, on était là et on a vraiment été choqués par ce qui s'est passé. Et le fait de savoir en étant maman qu'il y a deux enfants qui ont un papa en moins, c'est quelque chose qui me bouleverse. Mais c'est un cri du cœur que tout le quartier pose depuis 6 ans. Depuis 6 ans, on dit, laissez pas nos gamins à 19h passer par cette place, on a peur. La rue Thiers, c'est un coupe-gorge. Tous les gens, chaque semaine, dénoncent les violences et les deals qui sont mis en place. Je dis pas que c'est au niveau de la police que ça se fait pas. En fait, j'en ai aucune idée de où ça bug. Et moi, de savoir que ma fille passe par une place où il y a des gamins qui ont des armes, ça me pose des questions autant pour le gamin qu'à l'arme. C'est qu'on l'a abandonné quelque part pour qu'il en soit là, que la mienne qui risque à un moment de se prendre une balle. Voilà.
Témoignage recueilli pour RTL par Étienne Baudu. Et je vous rappelle qu'à 18h35 et 18h30 même, c'est Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, qui sera l'invité d'RTL soir.
On en vient à la crise sanitaire et Emmanuel Macron accélère encore le calendrier vaccinal. Les plus de 50 ans vont pouvoir se faire piquer dès lundi, le 10 mai, au lieu du 15. Pour les autres, pour les plus jeunes, il sera possible de prendre rendez-vous à partir de mercredi. Mais attention, sous conditions.
Nous ne voulons pas qu'on gâche quelques doses que ce soit. On veut optimiser et être sûr que toutes les doses seront pleinement utilisées. Donc à partir de mercredi 12, s'il y a à l'endroit où vous êtes des doses qui sont disponibles le lendemain et donc des rendez-vous qui ne sont pas pris, ils seront ouverts sans limite d'âge.
Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
Concrètement, comment ça va se passer ?
Alors concrètement, c'est encore en cours de discussion. Parfois, le président fait des annonces et l'administration court derrière. Mais en gros, quand un centre s'apercevra qu'il a le lendemain beaucoup de rendez-vous libres, peu de candidats et donc des doses en trop, sachant que les centres sont désormais réapprovisionnés toutes les semaines et de mieux en mieux, pas la peine de stocker trop de flacons, eh bien, il pourra dire aux plateformes de réservation je vais ouvrir tant de créneaux demain à des personnes qui ne sont pas éligibles. Alors ce sera à partir du 12 mai. Si vous avez moins de 50 ans, vous pourrez aller tous les jours sur Doctolib, Keldoc, Maya. Il y aura une case prévue supplémentaire comme motif de vaccination qui devrait s'appeler rendez-vous pour ne pas perdre de dose. Et vous pourrez donc vous inscrire pour le lendemain.
Donc c'est la case magique, hein, rendez-vous pour ne pas perdre de dose.
Ou quelque chose comme ça, ce n'est pas encore défini.
Merci beaucoup Virginie. Virginie Garin, Emmanuel Macron, qui travaille par ailleurs sur une sorte de RSA jeune, c'est ce que vous nous confirmez ce soir, Vincent Derosier.
Oui, c'est la mesure pour les jeunes que recherche désespérément le président depuis des mois. Alors, c'est l'esprit du RSA jeune réclamé par certains, et notamment la gauche, mais en beaucoup plus restrictif, car l'aspect assistanat effraie en Macronie. Alors, avec un RSA jeune, n'importe quelle personne, pour faire simple, entre 16 et 26 ans pourrait prétendre à une allocation. Là, il s'agirait d'une indemnité mensuelle de 500 euros pour tout jeune qui n'a ni formation, ni stage, ni emploi. Et surtout, son versement serait conditionné à une recherche active de travail. Le bénéficiaire aurait aussi un suivi régulier avec un conseiller, des rendez-vous pour faire son CV ou pour s'entraîner à de faux entretiens d'embauche. C'est ce qu'explique un proche. Bref, c'est une façon de s'adresser surtout aux décrocheurs, à tous ces jeunes déscolarisés qui ne sont plus dans les radars du gouvernement et qui ne savent pas qu'il existe des dispositifs pour eux. Car en réalité, ce nouveau plan Macron, c'est plutôt une généralisation de ce qui existe déjà, confie un conseiller. L'objectif, c'est de toucher 1 million de jeunes, c'est ambitieux, contre 100 000 l'an dernier avec des dispositifs existants. Nous avons une dette envers la jeunesse, il faudra y répondre, a dit Emmanuel Macron tout à l'heure. Et à un an de la présidentielle, le chef de l'État espère faire les annonces lui-même avant l'été, alors que Marine Le Pen a déjà proposé toute une série de mesures à destination des moins de 25 ans.
Vincent Derosier du service politique de RTL. Du côté des Républicains, sachez que la crise continue. Après Hubert Falco, le maire de Toulon, c'est ce soir au tour de Christian Estrosi de quitter le parti. Il l'annonce à nos confrères du Figaro.
Restez avec nous, deux rendez-vous à suivre. C'est un avec des Lensois, ça va venir vite. Et puis l'autre avec Céline Dion. Là, il va falloir attendre un petit peu plus. À tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Et un témoignage important aujourd'hui lors du procès de Nordal Lelandais.
Important car il remet en cause la version de l'accusé. Ce témoignage, c'est celui d'un ancien co-détenu, un homme à qui Lelandais se serait confié et que vous avez pu rencontrer, Serge Puyot.
C'est un témoignage qui a été contesté devant la cour d'assises. Nordal Lelandais a dit que jamais il ne s'était confié à ce co-détenu. Son avocat, Maître Jakubowicz, a estimé qu'il ne fallait y accorder aucun crédit, car deux versions différentes avaient été données. Mais Farid, le fameux co-détenu, qui parle pour la première fois à un média, persiste et signe. Lelandais s'est bien confié à lui lors d'une promenade.
Le lendemain m'a dit comme quoi il avait dit à Arthur Noyer, il lui avait imposé une fellation. Et Arthur Noyer, lui, il lui avait dit non. Et voilà, il était comme un fou, quoi. Il était déjà rond et tout. Il est descendu de la voiture pour pisser. Et c'est là que le Landel le suivait derrière avec qui a pris un caillou, qui lui a frappé un grand coup fort sur la tête, derrière la tête.
Ça, vous êtes affirmatif, il vous l'a dit.
Affirmatif, à 2000%, il lui a dit ça. J'ai pas inventé. Ce qu'il m'avait dit, c'était grave. Je pouvais pas garder ça pour moi et tout. C'est pour ça que j'ai demandé avant de rentrer en cellule de voir le surveillant chef. J'ai voulu aider la justice. J'ai pensé aux parents et tout. Et pour moi, c'était grave. Je pouvais pas garder ça pour moi. C'est la vérité, ce que j'ai dit.
L'avocate générale, elle précisait que l'accusation ne se fonderait pas sur ce témoignage au moment de requérir la condamnation de Nordal Lelandais.
Serge Pillot à Chambéry pour RTL.
On va se détendre un peu.
Oui,
il est
ça
temps,
va faire
hein,
du
avec
bien.
Du foot, avec ce qui sera le choc de la 36e journée de Ligue 1. Lens contre Lille, c'est demain soir.
Un derby en or. Lille, leader, rêve du titre. Les Lensois, eux, visent une place européenne. Des Lensois qui ont reçu aujourd'hui le soutien de leurs supporters. Ça faisait longtemps, très longtemps qu'on ne les avait pas vus aussi nombreux à l'entraînement, Franck Hanson.
Oui, massé derrière les grilles du stade d'entraînement, bariolé en sang et or jusqu'au masque, ses supporters savourent ces retrouvailles avec leurs joueurs. Le message est bien passé avant ce derby chaud bouillant contre l'ennemi lillois.
On est chaud pour le derby, là. Pour accrocher l'Europe et pour empêcher Lille d'être champion. On n'a pu assister à aucun match. Donc forcément, c'est frustrant. En plus, qu'ils nous font une sacrée saison. Donc oui, forcément, ça fait du bien. C'est la suprématie régionale. Il faudrait les accrocher, bien sûr.
Au match aller, les Dogs s'étaient imposés 4-0. Les Sang et Or veulent donc leur revanche. Une équipe artésienne qui revient de loin, toujours soutenue par un public de fidèles comme Valentin.
C'est plus qu'un derby, je pense. C'est contre Lille, quoi. On n'a pas le choix de gagner, on a une revanche à prendre. C'est magnifique. C'est un promu, ils arrivent de Ligue 2, ils corrigent pas mal d'équipes. Lens va gagner demain.
Ouais.
Ouais, je vous le dis, je vous confirme.
Même sans son public.
Même sans son public. On leur donne la force aujourd'hui, justement, et demain ils savent ce qu'ils doivent faire. Ouais, sur le terrain, c'est une belle équipe, c'est vrai. Mais bon, nous, on est des guerriers à Lens. C'est Lens, quoi. C'est depuis toujours.
Et demain soir, dans les rues lensoises, un comité d'accueil est prévu jusqu'au stade Bollaert, avec des tribunes toujours désespérément vides.
Franck Hanson à Avion, au centre d'entraînement du RC Lens. Ça fait du bien d'entendre ça.
Ça fait du bien. Et ça, on poursuit avec la bonne nouvelle du jour, en plus.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Pas du jour, du jour.
Oh, et oui, Céline Dion. Elle sera bien sur scène aux Vieilles Charrues, mais alors pas cet été comme prévu, après le report de l'an dernier. Ce sera à l'été 2023.
Ah oui.
Donc, pas là, pas l'année d'après, l'année prochaine, mais l'année d'après.
C'est pas des bonnes nouvelles, c'est de la science-fiction. Votre
le
truc.
13 juillet 2023, c'est ce qu'annonce aujourd'hui la direction du festival, en fin de journée, j'imagine. Et Céline, elle a posté un petit message, écoutez.
J'avais tellement hâte de vous voir en Europe cet été, mais comme vous le savez, en raison de la pandémie qui persiste dans le monde, nous devons encore repousser les dates. Mais il ne faut pas désespérer. Nous sommes très confiants de pouvoir enfin faire les spectacles en 2023. D'ici là, continuez d'être prudents et gardez bien la santé. 2023, on arrive.
2023, j'adore. Dans un jardin d'enfants
sur un balcon de fleurs. Ça vous permet de passer votre idole, Céline Dion, je vous reconnais bien là. Merci beaucoup à vous.
À tout à l'heure.
Amandine Bégaud, à tout à l'heure. Après le drame effroyable de Mérignac, Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et l'invité d'RTL Soir, c'est tout de suite et c'est en direct.
RTL Soir, Thomas Soto.